suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Euradio propose chaque semaine une série d'émissions spéciales consacrées à cette attaque brutale et à la résistance ukrainienne.
Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Ukraine dans laquelle nous recevons Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans nos studios bruxellois. Alors on va parler d'Ukraine avec vous, vous en revenez, vous y êtes parti quelques jours. Alors une question qui va paraître toute bête, mais dans ce contexte de guerre que connaît le pays depuis le 24 février de cette année, comment est-ce qu'on se rend en Ukraine? Comment se planifie un voyage sur place?
Alors moi j'ai hésité hein, parce que je voulais pas non plus qu'on ait l'impression que j'allais faire du tourisme politique là-bas. Donc ça date d'il y a un mois, j'ai une longue conversation avec Vitali Klitschko, le maire de Kiev, pour dire ok, comment est-ce qu'on peut aider. Donc nous on s'est surtout concentré à Bruxelles sur l'accueil des réfugiés, puisque c'est Bruxelles Expo qui accueille les 40 000 réfugiés ukrainiens, sont tous passés par Bruxelles Expo qui est géré par la ville de Bruxelles. J'avais déjà mis un ancien hôpital à disposition aussi. On a mis un palais du Hesel aussi pour récolter les dons. Donc on était assez impliqués dans les rapports avec l'ambassade. Et puis l'ambassade m'a demandé d'avoir une conversation avec Vitali Klitschko. Et là, il m'a dit, écoute, c'est important que tu viennes parce qu'il faut des symboles forts. Je dis, ok, mais je ne vais pas venir juste moi. C'est un peu ridicule, quoi. Et alors, on a monté un convoi humanitaire avec 3 tonnes de matériel qui ont été financés par l'hôpital Saint-Pierre et 2 ambulances complètement équipées en réanimation que Pascal Smet, le ministre en charge de l'aide médicale urgente, et les pompiers m'ont permis d'amener là-bas. Donc on a d'abord fait partir le convoi là-bas et puis la première chose, c'est qu'au début, il faut être discret. Une fois qu'on est là-bas, on peut dire qu'on est là-bas, mais il faut passer les différentes choses. Donc, pour donner très simplement, ben, on prend un avion jusqu'à... Alors moi, je dis Jarchow, mais je ne sais jamais bien le prononcer, donc, qui est un aéroport local en Pologne, qui était une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Et alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas vouloir rentrer en voiture. Donc, il faut rentrer à pied par la frontière. Donc, on a un taxi qui nous amène jusqu'à en fait, le camp de réfugiés de la frontalier. Et de là, il faut passer, c'est environ 2 kilomètres, la frontière à pied. Et puis de l'autre côté, vous reprenez un taxi sur Lviv. Donc c'est, voilà, il faut connaître un peu, mais on était encadré et par l'ambassade d'Ukraine, aussi par un réalisateur français qui connaissait bien cela. Et j'étais avec 2 collaboratrices, dont une qui dépend de l'hôpital Saint-Pierre. Donc voilà, il faut planifier les choses et y aller avec un but bah, de créer ces contacts pour ouvrir cette plateforme humanitaire.
Et Philippe Claus, qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé à Kiev, dans une ville quand même qui est moins sous les bombes qu'elle l'a été au début de la guerre, mais qui reste quand même sous la menace? On l'a vu lors de la visite toute récente du secrétaire général de l'ONU.
Bah, c'est que c'est très vide. Donc c'est une ville normalement de 3,5 millions de personnes. Et là, ils sont descendus en dessous de 700 000, me disait Klitschko. Et maintenant, ils sont environ 2 millions, mais les gens sont cachés. Donc c'est une ville qui n'a pas d'embouteillage, il n'y a personne dans les rues, alors que c'est une ville normalement bouillonnante. C'est un peu l'inverse de Lviv d'ailleurs. Lviv, c'est une ville d'ailleurs qui est un peu le hub humanitaire de tout, puisqu'elle se trouve à la frontière polonaise. Et donc là, par contre, elle est bouillonnante, même s'il y a eu plusieurs attaques de missiles quand j'étais là, mais c'était plutôt dans les faubourgs. Ce qui est impressionnant aussi, c'est les villes qui ont servi de base arrière, qui sont les villes martyrs hein, de Boutcha et de Borianka, qui sont en fait les faubourgs de Kiev, hein. c'est 25 km de Kiev, hein. Donc c'est vraiment juste à côté. Hein. Pour tout le monde, dites-vous, bah, c'est votre banlieue, si vous habitez en ville, c'est juste votre banlieue. Quoi. Là, c'est vraiment des villes martyrs. Hein. Donc, et là, c'est paradoxe, c'est que vous avez là-bas, tous les centres logistiques ont été détruits, donc c'est beaucoup l'aide humanitaire qui est là, et vous faites 200-300 km plus loin, et là, vous avez une vie quasi normale, parce qu'ils sont alimentés et des choses comme ça. Mais ce qui est surtout très impressionnant, c'est la détermination des Ukrainiens. Donc ils sont mais complètement déterminés, complètement mobilisés, que ce soit dans les hôpitaux qu'on a visités, puisque notre mission c'est principalement d'aider les hôpitaux ukrainiens, et on sent une énorme motivation et une énorme compétence aussi à gérer les choses.
Ça vous a surpris un petit peu ce caractère combattant encore des...
Ce qui est surprenant, donc pour les gens se rendent bien compte, l'Ukraine c'est plus grand que la France. Donc vous êtes dans un territoire immense en fait. Entre Lviv et Kiev, c'est 600 km. Donc quand j'étais à Kiev, en fait les plus gros des combats sont à 300 bornes. Donc c'est comme si un peu j'étais à Lyon et que les combats étaient à Marseille. Quoi. Donc c'est vraiment extrêmement impressionnant comme ils sont à la fois très concentrés là-dessus et il y a plein plein de moments de la vie quotidienne où les gens vaquent à leurs occupations, même si les couvre-feux sont là tous les soirs à 10 ou 11 heures, même s'il y a beaucoup moins de monde dans les rues, même si les écoles sont fermées, non pas à cause des bombardements, mais parce que les écoles servent à accueillir des réfugiés. Donc par exemple, à Lviv, qui est une ville où, quand on s'y promène, en dehors des alertes, bah, les terrasses sont pleines, les restaurants sont ouverts, il y a des choses qui se passent. Mais il n'y a pas d'école parce qu'en fait, elles sont occupées par les 200-300 000 réfugiés qui sont venus compléter cette ville de normalement 800 000 habitants. Donc la guerre, elle est partout et en même temps, ils assurent, je ne vais pas dire une normalité parce que le mot est très très mal choisi, mais leur parlement se réunit, ils discutent de lois diverses et autres. Enfin, c'est vraiment un pays qui est déjà en train de penser à sa reconstruction, qui est déjà en train de penser, parce qu'ils ne doutent absolument pas de leur victoire, mais ils veulent continuer à sensibiliser l'opinion publique à leur cause. Et par exemple, c'est très impressionnant comme ils sont obsédés par les fake news. Alors c'est marrant parce qu'en Belgique, moi, je ne les ressens pas trop. Ce que je leur ai dit, je ne me sens pas... Par contre, c'est vrai que j'ai commencé à regarder un peu les réseaux sociaux. Ils voient beaucoup qu'en France, en Allemagne, ça continue à circuler. La polémique que j'ai vécue là-bas, par exemple, c'était... donc, ils ont l'habitude de traiter tout le temps le régime ukrainien de nazi. Donc, ils disent, les Russes utilisent beaucoup ce terme-là. Et donc, le président Volodymyr Zelensky disait « Mais maintenant, il faut arrêter. Écoutez, moi, ma mère est juive. Moi, je suis juif. » Ce qui est établi, quoi. Donc, c'est pas un truc qu'il a inventé. Et vous l'avez peut-être entendu, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, dit « Mais ça ne veut rien dire. Hitler avait du sang juif. » Donc, c'est des trucs... polémique mondiale et tout le bazar. Mais on en est là, par moments, dans des polémiques absolument dingues sur ces fake news. Et donc, moi, je les ressentais pas, mais j'ai commencé à me dire « Tiens, est-ce que c'est vrai que ça tourne ?» Et donc, je crois qu'il est important, comme dans cette émission, d'expliquer ce qui se passe, bah, c'est qu'il y a un pays qui a envahi l'autre, quoi.
Oui, les faits sont assez clairs. Monsieur Claus, vous avez donc longuement discuté avec votre homologue de Kiev, hein, Vitali Klitschko. Quels sont les besoins principaux, quels ont été ces demandes par rapport à Bruxelles ou d'autres villes qui pourraient soutenir Kiev ?
Alors, il avait une image très forte, Vitali, c'est qu'il prenait un petit pot avec des pièces que lui avait donné un jeune enfant, qui lui avait dit voilà, moi, c'est toutes les pièces que j'ai collectionnées. Cet enfant avait 6-7 ans, et il dit mais en fait, toutes les aides sont importantes. Donc, bah, ils vont devoir tellement investir en reconstruction, ça va être incroyable. Par contre, ils ont quand même un milieu hospitalier qui est plutôt performant. Moi, j'ai vu quand même des hôpitaux, alors il y a beaucoup à faire, mais c'est pas du tout un pays déclassé au niveau santé. Maintenant, ils ont à la fois moins de patients, parce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés, quand même. Près de 5 millions, je crois, d'Ukrainiens qui ont quitté pour l'instant l'Ukraine. Mais ils ont des blessés de guerre beaucoup plus qu'avant. Donc même nous qui avons, par exemple, ici en Belgique, un système de santé extrêmement performant, si on avait une guerre, l'afflux de personnes, notamment avec des soins traumatiques très très importants, qui sont des traumas type amputation, type blessure vraiment de guerre, qui nécessitent des longues, longues, longues semaines et mois de rééducation, font qu'ils ont besoin de ce matériel. Donc ils ont aussi besoin de nourriture. Donc ça paraît bizarre parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas du tout de problème, mais ils vont avoir besoin vraiment de nourriture non périssable. Et donc, il y a des hubs humanitaires qui sont installés partout. Si vous prenez dans les régions comme Mariupol ou Odessa, mais tout est détruit, tous les centres logistiques. Alors, à la fois, vous êtes autour de Lviv, là, vous n'aurez pas de problème. Mais ailleurs, c'est terrible, quoi. Donc, je pense que toutes les aides sont bonnes et il faut que chacun se mobilise sur ce qu'il peut. Bah, nous, on a décidé à la ville de Bruxelles de se mobiliser sur l'hospitalier, sur la santé. Et donc, on a pris acte de différentes demandes. On reçoit beaucoup de dons privés et publics et on les oriente parce que beaucoup de dons s'arrêtaient à la frontière polonaise. Nous, on est allés là-bas pour trouver la voie directe et être sûr. Mais les ambulances, je les ai vues à Kiev. Donc, je peux jurer au ministre et aux pompiers, je les ai réceptionnés et elles sont là. Le temps de matériel, ils sont là. Ça, c'était le plus important pour nous parce que si tout s'arrête à la frontière, bah, c'est un vrai problème. Donc, on a créé les filières et les contacts directs avec les hôpitaux qui nous permettent de dire oui, oui, on a bien eu le responsable, le matériel est arrivé.
Et vous nous avez dit, Philippe Claus, que vous étiez étonné, stupéfait par la foi en la victoire des Ukrainiens. Est-ce que, malgré tout, vous avez senti quand même une population assez traumatisée par...
Oui, c'est terrible, parce que voilà, vous croisez évidemment des orphelins, vous croyez des mutilés de guerre, mais ils ont... En fait, il y a deux choses qui sont très bizarres. D'abord, ils ne s'attendaient pas du tout à cette invasion. Donc moi, je m'étais dit, c'est nous, Européens, qui essayons de nous convaincre, ça n'arriverait pas. Eux non plus. Ils savent tous ce qu'ils faisaient le 24 février à 5h du matin. Tellement ils ont été surpris. Alors c'est vrai qu'il y avait la guerre en Crimée, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, qui faisait que depuis 8 ans, ils étaient dans une ambiance quand même, voilà, avec une guerre possible. Mais honnêtement, ils ne pensaient pas que ce serait le cas. Et je pense que les Russes ont cru que ça irait vite. Bah là, on voit qu'ils patinent, quoi. Donc, et sur le reste, ils ont une mobilisation. Donc, ils sont très sensibles, je dirais, à la mobilisation internationale. Et alors, autre fait marquant, drapeau européen partout. partout, c'est les valeurs européennes. Donc ils continuent à taper là-dessus, de dire, mais voilà, nous, on est un rempart là-dessus, on a fait un choix. Alors, parce qu'on dit toujours que c'est l'histoire de l'OTAN, l'adhésion, mais en fait, plus que l'OTAN, c'est vraiment l'adhésion aux valeurs européennes. Donc c'est quand même intéressant pour l'Europe de se positionner par rapport à ça. Et je pense que les visites d'Ursula von der Leyen là-bas étaient vraiment importantes, de Charles Michel aussi. Parce que c'est vraiment leur combat, on le sent vraiment, donc c'est vraiment une volonté. Et donc pour eux, ils sont déjà dans l'optique de la reconstruction, mais surtout de ne nous abandonner pas.
Et une dernière question, Philippe Claus, alors c'est très compliqué de faire de la prospective dans cette guerre. De vos conversations avec Vitali Klitschko et les différents Ukrainiens que vous avez pu rencontrer, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous nous avez dit, ils réfléchissent à l'après, ils l'anticipent, ils le préparent, mais ils imaginent que cette guerre, elle peut durer jusqu'à quand?
Alors, ils n'ont pas, parce que personne n'est dans la tête de Poutine. Donc, comment ça va se finir, ils ne savent pas. Ceci dit, c'est impressionnant. Comme tout en étant démonté par rapport à ce qui se passe, que ce soit Vitali Klitschko qui me rappelait que sa mère est russe, sa mère ne parlait pas l'ukrainien. Donc il dit, moi je ne suis pas un anti-russe, hein. Je suis né en Russie, dans l'Union soviétique, mon père était un militaire qui a servi l'Union soviétique, ma mère était russe, ne parlait pas l'ukrainien, et lui et son frère Vladimir... Il disait, voilà, nous, on n'a jamais rien exprimé contre la Russie. On n'a jamais voulu envahir la Russie. On voulait notre autonomie, l'Ukraine, tout cela, mais l'intégrité de notre territoire. Et j'ai rencontré aussi une jeune blessée civile, Anna, qui m'a énormément ému, qui était aussi dans ce discours-là. Donc, eux, ils veulent reconstruire leur pays. Ils veulent que ça se finisse le plus vite possible. Mais par contre, ils veulent défendre l'intégrité de leur territoire. Voilà, ils disent, il n'y a pas de raison qu'on cède chaque fois, tous les X temps... par rapport à cela. Et donc après, il y aura un débat aussi sur la reconstruction de comment fonctionnent les minorités dans un pays. On est spécialisé en ça en Belgique, avec un pays très compliqué, mais je rappelle toujours aux gens que c'est aussi la force d'un pays de pouvoir protéger ses minorités. Donc il faudra trouver un système. Je pense que l'Europe peut aider aussi beaucoup là-dedans. Mais non, ils sont très motivés, ils sont à la fois... Ben voilà, ils ont quand même des milliers de morts, quoi. Donc c'est terrible. Et alors, des villes entières, il faut se rendre compte, les villes de Mariupol, ça c'est des centaines de milliers d'habitants qui sont complètement rasés. Donc dans ces 5 millions de personnes, tout le monde ne va pas revenir tout de suite parce qu'on ne sait pas les loger. Mais c'est un pays qui, dès que la guerre se finira, j'espère le plus vite, je suis convaincu, va tellement se retrousser les manches pour reconstruire et... Ils sont très émus de la solidarité internationale. Donc c'est vrai qu'il y a eu des débats sur la façon de... Voilà, ils se sont fait bombarder parce qu'on ne pouvait pas envoyer les avions puisqu'on savait qu'on avait une escalade si on faisait ça. Mais ils ont senti que les Européens, et c'est pour ça que je le dis à mes concitoyens, continuez à vous mobiliser pour l'Ukraine, il ne faut pas lâcher. C'est extrêmement important parce que chez eux, les moindres gestes sont extrêmement appréciés parce qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce qu'en face, c'est vrai qu'il y a l'ogre russe qui est là. Mais je le dis... ils veulent défendre leur territoire, ils n'ont pas d'envie d'envahir ou d'humilier. Ils veulent défendre leur territoire et on peut les comprendre.
Bien, je vous remercie très chaleureusement, Philippe Claus, d'être venu nous parler hein, de ce voyage, pas comme les autres, que vous avez récemment effectué à Kiev et de nous avoir expliqué aussi ce que vous avez dit votre homologue de Kiev, Vitali Klitschko. Merci encore.
Merci à vous.